Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Que diable s'est-il passé entre Sam Altman, OpenAI, Microsoft et les autres? Apple aime Android et leur offre le RCS et le MagSafe. Et finalement, les nazis, c'est pas trop trop super et les annonceurs quittent Twitter en masse. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Nous sommes en novembre 2023, c'est l'épisode numéro 540. Je suis Patrick Béja et je suis avec Jeff Clavier. Malheureusement, Marion n'a pas pu se joindre à nous cette fois-ci. Mais Jeff, tu es là et bon sang, depuis la Silicon Valley, j'imagine que ça a été l'ébullition avec cette histoire incroyable entre Sam Altman et OpenAI qu'on va détailler dans un instant. Mais comment vas-tu ?
Écoute, ça va, je veux mon week-end parce que, en fait, j'ai passé, comme beaucoup de gens ici, mon week-end à regarder Twitter/X, parler à des gens, etc., etc. Mm-hmm. Et je pense que ce qui, et j'ai un peu la,
mais la gorge, la crève, ouais.
ce qui résume bien, c'est what the actual fuck is going on, parce que c'est, voilà. Voilà.
On va en parler dans une seconde. On va en parler dans une seconde, mais je suis content que tu sois là parce que tu as, en plus de ce qu'on a cru comprendre et ce qu'on a lu dans tous les articles, tu es nos yeux et nos oreilles à San Francisco. Donc, tu pourras nous dire un peu plus. Et en plus, tu connais bien ces histoires de start-up qui ont du succès, puis les fondateurs et les disputes.
Je connais bien tout le monde. Donc, c'est ça qui...
Et quoi, pardon ?
C'est bizarre. Et puis, je connais bien tout le monde. Je connais tous les parts. Je connais beaucoup de gens ici.
C'est parfait que tu sois là, le timing est bon. Donc on va pas se faire désirer plus longtemps. Je vais juste remercier les patriotes qui ont rejoint l'émission. Taro Yamada, Zjil, Great RH, Dark Neo Wars, ça c'est un pseudo qui est bien edgy de quand on a 16 ans j'imagine. Enfin je pense, hein. Merci Dark Neo Wars et les autres, et merci aux producteurs Eric Bastin et Derek Herbe. Merci à vous tous, j'espère que vous êtes contents d'être les patriotes et les producteurs de cet épisode spécifiquement, parce que là vraiment c'est du lourd et on va se lancer tout de suite avec les infos. Les infos de la semaine et la première, alors on l'a mentionné parce que vraiment c'est complètement invraisemblable ce qui s'est passé ces derniers jours. Je vais résumer, mais imaginez, en fait, il y a deux manières dont on peut l'expliquer. Bien sûr, l'histoire des séries Netflix, et vraiment j'ai hâte d'avoir la série Netflix de cette histoire. C'est genre les séries les plus vicieuses que vous pouvez imaginer, les Billions, les Successions, tout ça. Sauf que c'est 3 saisons, je crois que c'est Cédric Ingrand qui disait ça sur Twitter, 3 saisons résumées en un week-end. C'est invraisemblable, inattendu, surprenant, tout ce que vous voulez. Alors, on va résumer, on va en faire, 6 épisodes, les séries, les mini-séries, elles sont en 6 épisodes, 6 épisodes qu'on va commenter au fur et à mesure. Tout ça, ça s'est passé en 3 jours et ça a été l'électrochoc, l'explosion au niveau d'OpenAI et de Sam Altman. Alors, je rappelle, Sam Altman, c'est le CEO, le président de OpenAI, la start-up qui est devenue une grosse société de la tech et de l'IA grâce à notamment ChatGPT, GPT 3,5 et 4, et DALL-E, qui sont les frondeurs, les meneurs de l'industrie de l'IA générative qui a explosé il y a 1 an et demi maintenant. Ça, c'est le décor. Rien ne peut atteindre Sam Altman, il est absolument le golden boy de cette industrie qui est la golden industrie de la Silicon Valley, qui est le darling du monde. Donc, il est incroyablement performant, il réussit tout, personne ne peut le toucher. Ça, et il vient de faire en plus, on en parlait la semaine dernière, sa conférence OpenAI Dev Day, où il a annoncé de nouveaux trucs, et on va voir que c'est lié à ce qui s'est passé, sans doute on pense. Mais vendredi en début de journée aux États-Unis, en fin d'après-midi chez nous, on annonce, on voit un communiqué de presse lunaire du board d'OpenAI, Vendredi, d'ailleurs, c'est généralement « Take out the trash day », pour ceux qui s'en souviennent dans The West Wing. C'est-à-dire que quand on a une info dont on ne veut pas qu'elle soit trop répercutée, on la publie juste avant que les gens partent en week-end. Et on se dit « Bon, on envoie les poubelles à ce moment-là, personne ne va s'en soucier ». C'est l'idée souvent. Là, évidemment, ça n'a pas été efficace. On voit ce communiqué de presse du board de OpenAI qui annonce que Sam Altman a été licencié de la société. Vous vous souvenez ce que je viens de dire sur Sam Altman, hein. Sam Altman a été licencié sans vraiment donner d'explication claire, simplement en disant « Nous avons eu des différences d'opinion et nous n'avons plus confiance en ce que nous dit Sam Altman, donc il est viré. » Et là, vraiment, personne ne comprend. Parce que c'est le leader qui a amené le succès à OpenAI qu'on connaît. La structure d'OpenAI est un petit peu compliquée entre l'association et la société. On va en parler dans une seconde. Mais le fait que le board renvoie un fondateur comme ça, à ce moment de l'histoire de la boîte, c'est incompréhensible. Et on a vu tout le monde de la tech, tout Twitter, tous les blogs se lever comme un seul homme et dire « Mais WTF, qu'est-ce qui se passe ?» Et en plus, dans le communiqué de presse, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. On se dit « Mais il a dû faire un truc complètement inacceptable. Il a dû, se rendre coupable de harcèlement horrible. Est-ce qu'il a commis un crime? Est-ce qu'il a tué quelqu'un ? » On ne sait pas. Évidemment, il n'est pas rare qu'un fondateur se fasse virer de sa boîte. Ça peut arriver, on l'a vu à plusieurs reprises. Hein. Enfin, évidemment, Steve Jobs, Jack Dorsey, il y a plein d'exemples. Mais ce n'est pas à ce stade de la vie d'une boîte. C'est quand il la met en danger, c'est quand, pas au début, quand tout lui sourit. Du coup, on se tourne un petit peu vers la structure d'OpenAI. On va y revenir un petit peu plus tard, mais à ce stade, j'aimerais déjà me retourner vers toi, Jeff. Et avant de parler de toute la suite, avec Greg Brockman, enfin, tout ce qui se passe dans les épisodes suivants, à cet épisode 1, au season 1, qu'est-ce que tu penses, toi, et comment est-ce que la vallée le vit, cette annonce du board du renvoi, du licenciement de Sam Altman ?
Bah, comme tu le dis, donc il est, je crois, midi, c'est midi, un truc comme ça. Donc vendredi, tu reçois une alerte sur le téléphone, Sam Altman viré par le board d'OpenAI, et tu te dis, wait, what ? Quoi ? Et donc tu cliques sur le truc, tu lis le premier article qui est effectivement avec cette espèce de press release où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, ce qui est clair avec Sam Altman, c'est que je le connais depuis très longtemps puisqu'il était patron de YC. Je l'avais vu quand il avait fait sa boîte Looped. Bon, c'était un entrepreneur qui, la moitié de sa carrière a eu pas mal de succès, mais au début, c'était pas un golden boy. Donc, Looped, c'était pas un grand succès. À YC, il a fait
Y
des bons projets.
Un accélérateur de start-up.
Il a fait des bons trucs, mais c'était pas, il était pas, il avait pas fait l'unanimité, ce qu'il a amené à être remplacé. Bon, on n'a jamais trop su pourquoi ou comment. Donc, il y avait quand même des questions là-dessus. Mais c'est clair que depuis la création d'OpenAI, et une des raisons pour lesquelles on pense qu'il s'est fait un test de YC, c'est qu'il faisait beaucoup de choses en parallèle. Il a fait énormément d'investissements, il avait des fonds avec ses frangins, il a lancé OpenAI avec le soutien de la cofondatrice de Y Combinator. Donc il faisait beaucoup de choses. Et, mais clairement, avec OpenAI, il a développé à toute vitesse une infrastructure clé pour le monde de l'AI, et c'était aussi un fundraiser incroyable, puisqu'il a réussi à lever des dizaines de milliards de dollars pour la boîte, il l'a amené à 80 milliards de valeur. Et donc, de ce côté-là, c'était vraiment une pièce maîtresse d'OpenAI, et donc tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je pense qu'à un moment, on va parler du board, mais tu te dis aussi, mais qu'est-ce que c'est que ce board qui vire la pièce maîtresse d'OpenAI, il se coupe les pieds, quoi.
Il se coupe la branche, il se coupe l'herbe sous le pied, et on ne comprend pas. Donc vraiment, l'incompréhension totale sur ce qui se passe à ce moment, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Personne ne sait. Les idées différentes commencent à émerger. Est-ce que c'est parce qu'il a demandé de la régulation de l'IA? Est-ce que c'est parce qu'il a fait des deals qu'on ne voulait pas, etc. Comme je le disais, il y a une structure.
À ce moment-là, tu te dis il a fait quelque chose. Il a dû faire quelque chose qui explique le fait qu'il se fasse virer comme ça, manu militari, sans explication, sans rien. Et donc, là, on se dit, il y a un cadavre qui a été découvert.
C'est ça.
Et on va apprendre quelque chose dans les heures, dans les jours qui viennent.
Donc, à partir de là, spéculation, mais on arrive à l'épisode 2. L'épisode 2, c'est Greg Brockman. On va aller un petit peu plus vite sur les épisodes suivants. Greg Brockman, le président d'OpenAI, démissionne, lui aussi, en soutien à Sam Altman. Et là, tu te dis, OK, il se passe un truc. Là, c'est pas si Greg Brockman, le président, savait qu'il y avait un truc problématique avec, vraiment problématique avec Sam Altman, peut-être qu'il ne le suivrait pas. Épisode 3, de nombreux employés au plus haut niveau de la recherche et de...
Attends, épisode 2, il faut quand même rappeler que ouais. Greg, c'était le chairman du board, mais il n'était pas au courant ouais. du fait que Sam Altman se faisait virer. Donc, le board s'est rencontré sans son chair, sans la personne... Sans le président du board, parce que c'était le président de OpenAI, mais c'était aussi le président du board d'OpenAI.
Ouais.
D'accord.
Donc, il peut-être dans les deux structures différentes. Il y a une structure not for profit et une structure... commercial.
Bah non, c'est quand t'as deux choses. C'est tu vas avoir ta responsabilité dans la structure, comme tu disais. Donc, il était président d'OpenAI, mais il était aussi président du board. Donc, le président du board, c'est censé être celui qui appelle les meetings du board. C'est celui qui va mener les meetings du board. Donc, ils l'ont mis de côté et ils lui ont dit bon, alors t'es viré du board, mais t'es vachement important, donc tu gardes ton job et tu fermes ta gueule. Et donc, le mec, il a dit il faut pas oublier que Greg, c'est l'ancien CTO de Stripe. D'accord ? Donc, c'est un Gus qui est blindé de chez blindé. Donc, il n'a pas besoin du salaire de OpenAI pour survivre, etc. Le mec, il fait vraiment ce qu'il veut. Il pourrait s'arrêter de bosser demain. Et je peux te dire que ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ils auront encore du fric. Donc, le mec, il fait ça parce qu'il est passionné. Et je pense que Sam et lui se sont connus au travers de Y Combinator, puisque... Sam était et Y Combinator était le premier investisseur dans Stripe, et donc il y a une très forte
Stripe
relation
solution
là.
De paiement très connue qui est très utilisée encore.
Voilà. Et donc le fait que le board ait en gros fait un espèce de bypass de son chairman, c'est complètement fou.
Ouais. Et tu fais bien de le mentionner parce que ça étaye l'hypothèse d'une sorte de coup d'État au board, c'est un jeu de pouvoir, c'est une question politique. Et on apprend également, dans le même temps, que non seulement Greg Brockman n'était pas au courant, mais que Satya Nadella, président de Microsoft, n'était pas au courant non plus. Microsoft est le premier investisseur, je crois, en tout cas un énorme investisseur d'OpenAI. Ils ont mis 10 milliards dans OpenAI. 10 milliards, je ne me trompe pas, hein, c'est bien 10 milliards.
C'est bien 10 milliards, mais c'est pas exactement un investissement.
Alors, c'est pas des sommes parce que l'argent leur donne bien, parce qu'ils utilisent Azure.
Voilà, ils ont mis
Azure,
du fric,
etc.
Ils ont donné des crédits Azure, ce qui est quand même important parce qu'à un moment ou un autre, tu vas te dire, mais attends, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la question du chapitre 7, c'est quid de la... Non, et pour moi, en fait, je pensais plus à Dallas, si tu veux. Donc, je me disais, donc, Sam, c'est Bobby, Ilya, c'est JR... Greg, c'est Ray, donc ça commençait à bien tomber. Bon, la question, c'est comment est-ce que OpenAI survit ? Parce que sans Sam pour aller lever de l'argent, c'est pas clair. Et OpenAI crame du fric comme c'est pas permis. Donc, en gros, oui, effectivement, Satya n'était pas au courant, mais aucun des investisseurs, que ce soit Khosla, il n'était pas au courant, les mecs de Thrive, ils n'étaient pas au courant. Donc, en gros, ils ont fomenté ce coup sans qu'aucun des supporters d'OpenAI et aucun des meneurs de fonds était effectivement au courant. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris un énorme risque, une énorme responsabilité. Et je te laisse continuer.
Et du coup, suite à l'annonce de Greg Brockman de démissionner, des employés, comme je le disais, commencent à annoncer leur démission également. Et des employés, pas n'importe lesquels, les chefs de département de recherche les plus importants qui font le produit OpenAI, la recherche dans l'IA OpenAI. Là, je pense que au niveau du board, ça commence à suer véritablement, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Certains d'entre vous ont sans doute entendu parler de Ilya Sutskever, et je vais y venir, mais à ce stade, on ne sait toujours pas, les gens sont en train de démissionner à droite, à gauche, on est à l'épisode 3 de cette série de 6 épisodes, et on ne sait pas ce qui se passe toujours, mais les gens sont en train de démissionner. OpenAI est en train de se vider de sa substance sans qu'on comprenne ce qui s'est passé. Épisode 4, c'est le board tente d'embaucher, attention hein, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de l'histoire, le board qui vient de renvoyer Sam Altman tente d'embaucher Sam Altman. Le board essaye de réembaucher Sam Altman qu'ils viennent de virer. Invraisemblable, invraisemblable. Altman tweet une photo de lui, après avoir tweeté plein de choses. On a des idées sur ce qui commence, les raisons du pourquoi, du comment qui commencent à émerger, mais rien de confirmé. Altman tweet une photo de lui en disant « C'est la première et dernière fois que je viens dans les locaux de OpenAI avec un badge visiteur. » Ce qui implique « Soit je redeviens CEO, soit je ne reviens plus jamais. » Et donc, on va négocier. À ce moment, il y a des déclarations. Nous avons confiance dans le fait que Sam Altman redevienne président. Tout va bien, OpenAI, aucun souci. Bon, très bien. On attend quelques heures. Parce que tout ça se passe à quelques heures d'intervalle. Hein. Ce n'est même pas une semaine pour attendre un nouvel épisode dans cette saison, dans cette série. Quelques heures plus tard, le board annonce qu'ils ont engagé Emmett Shear, l'ancien CEO de Twitch, comme CEO temporaire. Il y a eu une autre CEO entre-temps. Mais CEO temporaire pour le temps de la transition. Et du coup, ils n'ont pas réussi à embaucher Sam Altman. Les négociations n'ont pas réussi. On imagine que Sam Altman, pour accepter de revenir, voulait que le board entier démissionne et avoir les mains libres chez OpenAI. Épisode 6, tout à l'heure, là, c'est le dernier épisode, hein, il y a quelques heures à peine, l'un des coups de génie les plus incroyables de l'histoire de la tech, et je pense qu'il va être enseigné dans les livres d'histoire ce moment. Entre parenthèses, j'ai fait mon petit teasing. Avant de continuer, on est lundi 20 novembre, au soir, à Paris, quand on enregistre cet épisode. Il n'y a aucun doute sur le fait que ça va continuer à évoluer, donc il est possible que d'ici 24 heures, 12 heures, peut-être dans 10 minutes, les choses auront encore explosé d'une manière différente. Mais à ce stade, c'est ce qu'on sait et c'est ce qu'on peut en dire. Donc, le coup de génie, Satya Nadella, vous vous souvenez à l'épisode 2, quand on disait qu'il n'était pas au courant non plus, comme Greg Brockman, Satya Nadella annonce lundi, donc 3 jours après le renvoi de Sam Altman, Satya Nadella, président de Microsoft, partenaire de OpenAI, qui a fait des déclarations sur le fait qu'ils ont une excellente relation avec OpenAI, qu'il n'y a aucun problème, même sans Sam Altman, qui continue sur ce ton, annonce également qu'il a embauché Sam Altman, Greg Brockman et de nombreux autres employés d'OpenAI et que la porte est ouverte pour récupérer des employés d'OpenAI. Satya Nadella est le président, le CEO d'une boîte tech le plus incroyable de ces 20 dernières années. Microsoft, on oublie ce que c'était Microsoft sous Ballmer. Windows, tout le temps, tous les jours, on n'a que Windows, c'est notre produit. Satya Nadella arrive, il chamboule tout chez Microsoft. Il met le cloud en avant, il fait plein de produits différents. Microsoft est présent partout. Il réussit à peu près tout ce qu'il entreprend. Il a une vision à 360 degrés et à 5 ans. Et enfin, il réussit tout ce qu'il entreprend. Évidemment, non. Mais il réussit énormément de choses. Et là, ils étaient dans une situation où, pour l'IA, ils se reposaient à 100% sur OpenAI avec des investissements qui n'étaient pas une acquisition. Le jour où OpenAI voulait aller ailleurs, OpenAI pouvait. Bien sûr, OpenAI dépendait de Microsoft aussi, mais ils pouvaient tout à fait aller ailleurs. Ils devaient développer leur truc en interne chez Microsoft également, mais ils ne savaient pas s'ils allaient être aussi bons que ce qui allait se passer avec OpenAI. Ils ne pouvaient même pas racheter OpenAI parce que OpenAI était trop cher et parce que, au niveau régulation, ça risquait d'être vraiment compliqué de racheter OpenAI sans avoir des problèmes de concurrence déloyale, enfin de comment on dit, de position dominante. Sauf que là, ils récupèrent Altman, Brockman, les employés principaux, très certainement, et d'autres employés qui ont... Enfin, lui, il a dit « Notre porte est ouverte. Tous ceux qui veulent venir, ils viennent. » Il n'a juste pas le nom, on s'en fout. Il se fait un département AI qui est fait d'OpenAI sans avoir eu besoin de racheter OpenAI, sans avoir eu besoin de gérer les départements de régulation de différents États. Et il a dû faire un contrat absolument monumental avec Altman et Brockman. Il a dû faire travailler ses avocats tout le week-end pour avoir un truc bétonné, parce que maintenant, on voit qu'est arrivée une pétition des employés d'OpenAI qui a été signée par 500 employés d'OpenAI, genre ça fait 75% de la boîte, qui menace de quitter la boîte si Altman n'est pas réinstauré. Et je vais y revenir dans un instant à cette pétition. Mais ça, c'est l'épisode 6. Est-ce que je m'emballe avec Nadella ou est-ce qu'il est vraiment, il fait un coup de poker, enfin pas un coup de poker, un échec et mat d'échec incroyable.
Échec. Mais je ne sais pas si c'est un échec et mat, parce que je ne sais pas si c'est le dernier...
si c'est le dernier move dans
le dernier move,
folle,
parce que, ouais. En gros, ça, ça a été posté, quoi, il était 11h, minuit, hier soir. Et donc, clairement, Master Ninja Move de la part de Satya, clairement, là, franchement, chapeau bas. Tu te demandes pourquoi ou comment c'est arrivé, parce que si je veux dire, Sam, Greg n'ont pas besoin d'un job. Sam est probablement milliardaire, Greg, centimillionnaire, donc ils n'ont pas besoin d'aller se coller chez Microsoft pour avoir un job. Ils pourraient lever qui veulent, comme ils veulent, de la part de VC, genre littéralement tous les VC de la vallée, leur donner un chèque. Et donc, ça doit être la mission. Est-ce que c'est une carte blanche pour monter ou remonter OpenAI à l'intérieur de Microsoft avec les moyens de Microsoft? Est-ce que c'est... je sais pas. C'est la question pour moi, c'est pourquoi est-ce que Sam et Greg ont été chez Microsoft? Ils n'avaient pas besoin de faire ça.
Mais je pense qu'il leur a donné carte blanche et une société stable.
Le fait que Satya ait réussi à les avoir, c'est incroyable. C'est incroyable. La question, c'est est-ce que ça va durer? Parce que, comme tu le dis... Il y a 700 Pékins chez OpenAI. Il faut savoir qu'OpenAI a énormément recruté dans les 6 à 12 derniers mois. Donc, la plupart des gens qui sont à OpenAI n'ont pas été là depuis très longtemps. Et donc, le fait que tu aies 500 mecs qui disent « Bon, on se casse si ces connards du board restent là », ça pose la question de qu'est-ce qui va rester d'OpenAI d'ici une semaine, deux semaines, parce que toutes les autres boîtes d'AI sont en train d'envoyer des offres et des machins et des trucs et des bidules, mais à fond, et en fait, tu pourras avoir un squelette d'OpenAI qui reste, et ce sera forcément les moins bons qui restent, et la boîte qui est le leader fondamental du mouvement AI aujourd'hui pourrait, en fait, crumble.
Pourrait s'écrouler, quoi. C'est ce qui était inimaginable il y a 48 ans.
Ce qui était inimaginable avant vendredi. Et puis la question aussi, c'est... Attends, on regarde, c'est qui ces connards du board ? D'accord ? Et donc, au début, tu avais Reid Hoffman, qui est un des entrepreneurs les plus extraordinaires de notre temps, mais il a quitté. Il y avait, en gros, des gens qui étaient tout à fait capables. Alors, quand tu regardes, en fait, le board, tu vas avoir le chief scientist, il y a... qui semble être le JR.
Je vais en parler parce qu'il y a un twist. D'accord. À la fin, mais je vais revenir à Ilya dans un instant.
Donc tu vas revenir à Ilya, mais le board, en fait, c'est pas des gens. Bon, il y a Adam D'Angelo qui a vu donc toute la croissance de Facebook, parce que c'était CTO de Facebook avant d'être le CEO de Quora. Donc à la limite, tu pourrais dire, bon, à la limite, il est un peu qualifié, mais les autres, tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi ? Parce que c'est une boîte super importante, il y a une mission, une réelle mission que ce board a de mesurer, en fait, étant donné la définition non-profit du board, Ils avaient une mission, effectivement, de dire, bon, est-ce qu'on va trop vite? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Est-ce qu'on
alors fait justement, comme il faut? Tu me spoiles mon twist, en fait.
Ah bon, ok, bah, vas-y alors.
Bah, c'est après, donc, c'est ce season final avec Satya Nadella qui dit « Eh, bienvenue, Sam Altman et Greg Brockman dans Microsoft, on est super content de vous avoir. » Il y a, en fait, un épisode caché qui est l'épisode 0. Et ce qui s'est passé réellement entre... et qu'on a perçu au cours de la saison, mais en subliminal, entre Ilya Sutskever et Sam Altman. Et c'est cet article qui sera dans les notes de l'émission, un article de The Atlantic, qui explique en fait peut-être l'une des causes les plus probables de ce schisme qui s'est créé entre Altman et Sutskever, et qui est la cause de ce retournement du board. Parce qu'il faut comprendre qu'à la base, OpenAI est une organisation, une association, une non-profit, dont le but, dont la mission est de construire une IA, une AGI, une Artificial General Intelligence. En gros, c'est une intelligence artificielle telle qu'on l'entend dans les films de science-fiction, une intelligence artificielle consciente qui œuvre pour le bien de l'humanité. Et le board, tu disais, mais qui sont ces gens, d'où ils sortent? Et tu n'étais pas très flatteur avec eux. C'est parce que ce ne sont pas des gens qui sont censés, dont la mission est de créer une start-up qui va faire de l'argent. Leur mission, c'est de s'assurer que cette association suive son but, qui est de développer une AGI qui bénéficie au bien de l'humanité. Sam Altman, semble-t-il, était mal perçu par le board et en particulier par celui qui est, semble-t-il, le leader de ce coup d'État, Ilya Sutskever, qui est l'autre personnage principal. Et ces différentes accélérations dans le domaine du business ne leur plaisaient pas parce qu'ils pensent qu'en allant trop vite avec GPT 3.5, avec ChatGPT surtout, qui a été rendu public et qui a connu un succès énorme, avec le deal avec Microsoft, que Altman a fait pour s'assurer qu'ils aient les ressources et les capacités à développer l'IA, en plus du fait que ça soit une entreprise, une bonne idée pour une entreprise qui monte, selon ces membres scientifiques du board, eh bien, ça allait trop vite et ça devenait dangereux. Souvenez-vous, la mission des scientifiques au board, c'est de s'assurer que l'AGI ne devienne pas problématique pour l'humanité. Et Sutskever commençait à devenir une sorte, alors d'après cet article de The Atlantic, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est le consensus dans les analystes, et on ne regarde pas à l'intérieur, hein, donc on ne sait pas, mais il semblerait que ça soit ça, devenu une sorte de gourou de l'IA qui disait « Non, on va trop vite, l'IA c'est dangereux, attention, Sam Altman non seulement met en danger l'association, mais met en danger la mission et la possibilité de créer une IA qui soit bénéfique pour l'humanité. » Et donc, il aurait, depuis des mois, commencé à discuter avec le board de ce problème et après la conférence, vous vous souvenez, la OpenAI Dev Day dont on parlait la semaine dernière et le lancement des GPT, donc des IA personnalisables, il a pensé, semble-t-il, ça va trop loin, il va trop vite, ça va trop loin et on doit l'arrêter. Et donc, encore une fois, l'opposition qu'il y a entre la non-profit, donc c'est une non-profit qui a été fondée en tant que non-profit, mais qui a ensuite créé une société en dessous pour une société classique qui peut faire des profits, alors de manière limitée, mais qui peut faire des profits pour pouvoir se développer. Parce que sans perspective de profit, les investissements n'étaient pas là, la machine ne fonctionnait pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette structure étrange avec une association qui ne peut pas, qui ne veut pas faire de profit au-dessus, qui contrôle une société classique. Et cette structure fait qu'il y a une opposition entre la mission de la non-profit et la mission fiduciaire de la société classique. Le problème, certains voudront, et on en parlait sur le Discord, certains ont commencé à poser la question en ces termes, certains diront « Ah mais voilà, donc c'est la vision capitalistique et le capitalisme qui s'oppose à la recherche, et donc on voit ça par le prisme du capitalisme, alors que en fait les chercheurs, ils ont peut-être raison. » Le problème n'est pas tellement là. Le problème n'est pas que les chercheurs aient, soient opposés à la société, en tant que société personne morale. Le problème, c'est qu'ils ont incroyablement mal géré ce truc. C'est qu'ils n'ont pas expliqué, ils n'ont pas annoncé, ils n'ont pas discuté, on ne comprend rien, et ils ont mal géré leur annonce, leur coup qui a échoué, d'autant plus qu'on a même une scène post-générique. avec le fameux JR dont tu parles, le Ilya Sutskever, le leader, d'après tout ce qu'on entend parler, tout ce, dont, ce qu'on entend, le leader de ce coup, Ilya Sutskever, tweet il y a quelques heures, « Je regrette ma participation aux actions du board, je vais faire tout ce que je peux pour réunifier la société. » Et en plus de ça, la fameuse pétition, la lettre ouverte signée par les employés de la société, la lettre ouverte est signée par 500 personnes pour dire si il ne revient pas, si Sam Altman ne revient pas et que le board ne démissionne pas, on se barre. Il a signé cette open letter, Ilya Sutskever. Le type qui a leadé le renvoi de Sam Altman. Ça, c'est le post-générique, le truc qu'on n'attendait pas, qu'on ne voyait pas venir et qui laisse augurer d'une saison 2 absolument hallucinante, encore plus que la saison 1. Je n'ai plus les mots pour décrire ce qui s'est passé depuis 3 jours. Et donc, tu voulais commenter aussi cette histoire du rôle de Sutskever. Enfin, on est d'accord qu'on peut comprendre les raisons, les motivations des scientifiques du board, mais que lui a incroyablement mal géré la chose et puis que ça a tout a explosé dans ses mains, quoi, je pense.
Bah, ouais, en gros, c'est le problème que tu vas créer, mettre quelqu'un sur un board, c'est une vraie responsabilité. Ce que je disais sur notre Slack interne où j'ai commenté en fait tout ça, c'est que s'il y avait eu des VC, donc des gens comme moi, comme Vinod Khosla sur le board, toutes ces conneries ne seraient pas passées parce qu'ils auraient mis un holà en disant mais qu'est-ce que vous racontez, et je ne comprends pas que Adam DeAngelo, qui est quand même un entrepreneur et qui sait que ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire 500 employés qui menacent de se barrer si jamais le board ne démissionne pas, c'était un outcome possible. Et donc
C'est une erreur stratégique au-delà de la question capitalisme, scientifique, tout ça, c'est une erreur stratégique pour la survie de l'organisation.
Ce qui semble s'être passé, c'est qu'il y avait cette tension avec le board qui voulait en fait aller moins vite et pas nous coller dans les pattes de l'EGI trop rapidement, et Sam qui poussait au niveau commercial de façon plus agressive. Et en gros, ce qu'il disait, c'est que Sam faisait ce qu'il voulait, et quand t'entends un truc du genre « bah ouais, mais il n'était pas forthcoming, il nous disait pas vraiment ce qu'il faisait », c'est parce que le mec, il n'utilisait pas son board tel qu'il le devrait, parce que, in fine, le CEO travaille pour le board. D'accord ?
Oui, donc, je pense que tout le monde le comprend, mais le président de la société, enfin le CEO, il est redevable auprès du board, évidemment, qui lui-même est redevable auprès des actionnaires. Donc, dans cette structure, c'est un peu particulier, mais oui, le CEO n'est pas censé faire absolument tout ce qu'il veut sans consulter le board.
Exactement. Et donc, là, c'est un peu particulier, puisque comme c'est la structure non-profit qui va mener tout, il n'y a pas vraiment de connexion directe entre les shareholders, les actionnaires. Et donc le board, donc ça c'est un poil compliqué. Mais le fait qu'il n'ait pas anticipé la shitstorm qui allait se passer est absolument incroyable. Et je vois pas comment les 4 Gus enlèvent ça de leur CV et combien de temps il leur faudra pour être, call and quote, pardonner. Parce qu'on va les traîner dans la boue jusqu'à la fin de leur vie. Parce que pour ce qu'ils ont fait.
Et tu veux dire que les membres du board, quand on comprend un petit peu la manière dont fonctionnent ces entreprises et ces actions, ils ont fait une erreur tellement monumentale que ça va leur coller au... Enfin, on peut tous le comprendre, mais encore plus en tant que membre d'un board d'une société, quoi. Enfin, d'une non-profit ou d'une société.
Et donc, ils sont ruinés. Enfin, je vois pas ce que... Je vois pas qui est-ce qui va... parce que, bon, à mon avis, ils vont tous se faire virer ou ils vont tous démissionner du board d'OpenAI. Et puis, ils vont faire leur mea culpa, mais c'est pas pour autant qu'ils vont être pardonnés. Et bon, il y en a, ils s'en foutent. Adam DeAngelo, il en a rien à foutre. De toute façon, il a fait suffisamment d'argent, il a Quora, etc., etc. Bon, dans Enquête Imini, les gens vont dire « What the fuck did you do ?» Il y a, j'imagine, qui va se faire tège. La pauvre Nana Mira, qui est donc la CTO, qui voulait, parce que tu n'as quand même pas dit une chose, c'est que la Nana qui a été nommé CEO temporaire pour genre 24 heures
avant
a essayé de ramener Sam Altman.
Oui, avant que Emmett Shear ne soit nommé CEO encore plus plus longuement temporaire, Mira, elle, non seulement elle a essayé de ramener Sam Altman, mais elle a également signé cette fameuse lettre ouverte, elle aussi. Donc, oui.
Et elle a dit aux employés, c'est-à-dire que dimanche, c'est là le truc qui était encore plus fou, c'est dimanche, Mira a essayé de ramener Sam alors que le board essayait de trouver un autre CEO pour la remplacer elle. Donc c'était dimanche, c'était en fait la culmination du what the fuck.
Ouais.
Où tu dis mais à quoi ils pensent ? Et en gros, il semblerait que ils étaient censés, le board est censé démissionner à 5h de l'après-midi, je sais plus si c'était ET ou PT, mais 5h ou Eastern ou Pacific. Et il semblerait que le point qui était problématique, c'est le board disait oui, mais on veut pas démissionner sans qu'il y ait un autre board, parce que c'est clair que d'un seul coup là où ils ont essayé d'enlever du pouvoir à Sam, le fait de le ramener, lui il a dit non, mais maintenant j'ai tout contrôle, c'est moi qui nomme le board et puis vous me faites chier. Et donc là où ils voulaient en fait essayer de mettre des guardrails, comment on dit guardrails,
des garde-fous,
des garde-fous, bah en gros ça empêchait tout, et ils ont pas voulu aller jusque là, ils ont pas voulu donner tout pouvoir à Sam. Et donc, c'est pour ça que Sam est parvenu, et c'est pour ça qu'ils ont été chercher un autre CEO, ils ont pris Emmett. Bon, on peut parler du choix d'Emmett, 30 secondes. Bon, le mec, c'est un entrepreneur, il a une sortie à 1 milliard avec Twitch, il est bon, il n'y a pas photo, il est bon. Mais il n'est pas bon au sens où tu te dis, ah ouais, c'est un candidat idéal pour OpenAI. Mmh. Là, tu te grattes la tête ou autre chose, et tu te dis, ok, bon, c'est un entrepreneur, il est smart. Non, c'est un mec, il est smart. Bon, mais c'est
il
pas
a
le choix.
Il n'a pas fait d'énormes étincelles chez Twitch depuis quelques années non plus, hein, mais bon.
Bah, il avait pris sa retraite, il a un bébé de 6 mois, je veux dire, on pensait que le mec, il allait se calmer un peu, et puis se ressourcer, et puis, objectivement, il a mérité son downtime.
Non, bien sûr.
Donc, tu te demandes pourquoi il a été se mettre là-dedans, parce que franchement, il n'a pas besoin. Et il se retrouve avec cette espèce de tas de merde qu'il a à gérer, où il a 500 pays. T'imagines, il débarque ce matin, salut tout le monde, je suis Emmett. Et puis les gus, ils disent on veut pas ta gueule, on veut virer le board. Et puis, voilà.
C'est plus de 2/3 de la boîte. Hein. Plus de 2/3 des employés de la boîte disent qu'ils vont démissionner.
C'est 500 sur 700, c'est même pas.
Mais oui, c'est plus. Ouais. Bref, bon, bah écoutez, voilà, entre parenthèses, c'est Mira Murati, la présidente, la CEO qui est restée CEO pendant 2 jours et qui aujourd'hui signe qui a fait ce qu'elle pouvait, hein, la pauvre, mais... Donc mais voilà.
Elle n'est pas en faute, que ce soit
ah bah, bien sûr.
Elle est victime, puisque chose, on lui dit, bon, bah t'es CTO, tu vas être CEO temporairement parce qu'on vire le mec, là, et puis voilà, et manifestement, elle faisait pas partie du complot, et en gros... Quand tu vois Ilya qui dit « Ah, bah, je suis désolé d'avoir comploté avec le board », alors qu'on se dit « Mais attends, c'est toi, JR, c'est toi, l'instigateur, c'est toi !»
C'est ce qu'on pense, ça, c'est pas avéré, hein, mais c'est en tout cas, il y a un faisceau d'indices.
Et donc, c'est le fait de dire « Ah, non, je suis désolé d'avoir participé aux actions du board », il joue vraiment les gros enculés, là.
Je ne qualifierais pas ça comme ça, mais je comprends le sentiment parce que, enfin, clairement, quand j'ai vu son tweet, je suis désolé d'avoir participé. Ça se trouve, on a tout faux, hein. On n'a rien de 100% clair là-dedans. On va rassembler les morceaux pendant des mois encore, mais c'est en tout cas ce qu'il semble s'être passé. J'espère que vous comprendrez un petit peu mieux cette première saison de OpenAI versus Sam Altman. On a passé une bonne durée de l'émission dessus et on va enchaîner avec la suite assez vite. Mais du coup, un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, je veux juste mentionner patreon.com/rdvtech, évidemment, si vous appréciez cette émission, si vous ne compreniez rien à ce qui s'est passé avec OpenAI et que maintenant vous comprenez, eh ben, je vous invite peut-être à soutenir le travail que je fais. Je peux vous dire que le week-end avec les enfants et tout, ça a été compliqué de faire la veille et de réunir toutes ces infos. Donc, si vous appréciez, un petit encouragement et bienvenue, patreon.com/rdvtech.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et c'est pas fini, puisqu'on a d'autres infos surprenantes. On va peut-être les enchaîner un petit peu plus vite. D'abord, Apple adore Android. Vous le savez, hein, ils donnent. Apple, c'est des gens qui aiment être généreux avec les concurrents. Ben, en l'occurrence, il y a un petit peu de ça, pour des raisons évidemment très claires. Apple a annoncé, à la surprise de tous, qu'ils allaient implémenter le RCS. C'est quoi RCS ? C'est le successeur des SMS, c'est-à-dire que c'est un service, un système, un standard de messagerie qui est moderne, qui est adopté par énormément d'opérateurs, enfin la plupart des opérateurs l'ont adopté. Google l'a implémenté sur Android depuis quelques années. Ils ont même du chiffrement de bout à bout, y compris dans les messages de groupe depuis cet été pour le SS. Donc vraiment, tout marche bien et ça permet de faire des choses comme avoir du multimédia de bonne qualité, pas des images qui ressemblent à un timbre-poste, des vidéos, ce genre de choses. Vous pouvez avoir l'indicateur de la personne qui tape en face, etc., etc. Donc, les trois petits points pour quand quelqu'un tape. Bref, c'est ce que fait iMessage à quelques petites choses près. Et la raison pour laquelle Apple ne voulait pas l'implémenter, c'est que ça voulait dire qu'ils abandonnaient un des avantages de l'iPhone, un des avantages d'iOS, qui est clairement un truc sur lequel ils comptent pour garder les gens dans leur écosystème, les avantages d'iMessage. Et là, ils ont annoncé qu'ils vont l'implémenter. Pourquoi ? Eh bien, il y avait de plus en plus de pression publique des sociétés concurrentes comme Google, mais aussi des gouvernements qui estimaient que ça leur donnait, bon, bah, y a différentes manières de présenter les choses, mais un avantage injuste par rapport à la concurrence. Et ça faisait pas très bon élève. Alors, deux choses, ça sera implémenté vers la fin 2024 a priori, donc on se dit avec la prochaine version d'iOS. Et surtout, un petit truc qui est clé, c'est que, vous savez les bulles bleues là, qu'on a quand on envoie un message ou quand on reçoit un message d'une personne qui est sur iOS, eh ben, elles resteront réservées à iMessage et donc à iOS. Même avec le RCS qui est plus moderne, qui peut faire à peu près tout ce que peut faire iMessage, eh bien, ça restera des bulles vertes si vous avez un message de quelqu'un d'autre. On espère qu'au minimum, les messages de groupe fonctionneront avec à la fois les bulles vertes et les bulles bleues. Donc, qu'on n'aura pas des messageries subdivisées quand on envoie un message de groupe à quelqu'un qui est sur un autre. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un groupe auquel vous envoyez des messages, ceux qui ont un iOS, un appareil iOS sont inclus dans le groupe. Les autres, ils reçoivent juste le message individuellement. Donc, c'est un facteur excluant, on va dire, évident. Là, on imagine que ça sera juste, ben, il y aura le groupe, et puis ceux qui utilisent iMessage, eh ben, ils auront les bulles bleues. Ceux qui n'utilisent pas iMessage, et donc qui sont sur Android, ben, ils auront les bulles vertes, mais tout le monde sera quand même dans le même groupe. Dans tous les cas, l'arrivée du RCS, alors il y aura quand même des trucs de sécurité dont Apple dit iMessage, ça reste quand même mieux, ok, super. Mais le RCS arrive. C'est une grosse nouvelle. Hein. C'est vraiment, vraiment une grosse nouvelle. J'aurai quelques liens pour détailler tout ça. Mais oui, les bulles bleues, les bulles vertes, même si elles restent, sur le principe, bah, y a une partie de l'avantage d'iMessage qui va disparaître. Et c'était inattendu. Je mentionne une autre chose.
C'est intéressant que Apple fasse ça. C'était inattendu, comme tu le dis. C'est pas Apple. c'est bizarre. Tu te dis, mais pourquoi ils font ça ? Parce qu'en fait, c'était tellement... Le monde dans lequel moi je vis est 99% iOS, de toute façon. Donc, ça fait 10 ans que je n'ai pas utilisé un téléphone sous un autre OS ou plus. Donc, tu t'en rends pas vraiment compte, mais c'est vrai que bah, y a d'autres parties du monde, de la population, qui va utiliser donc, des outils Android. Donc, c'est bien de les ramener, mais tu te demandes pourquoi, en fait, Apple a essayé de faire ça. Est-ce que c'est une pression régulatoire ?
Je pense qu'il y a de ça.
C'est possible.
Il y a une pression régulatoire et c'était difficile à comprendre. Enfin, il y a clairement une pression de certains organes de régulation qui exigent l'ouverture d'iMessage, c'est le cas de l'Europe, et puis de plus en plus de gens regardent, et là je pense qu'ils se disent, s'ils ne le font pas par plaisir, ils le font parce qu'ils se disent, bon bah donc on va calmer le jeu avec cette décision, comme bah, avec le USB-C, ils ont bien été obligés à un moment, parce que...
Yep, absolument.
Un autre truc, bon, tiens, juste mentionner très rapidement, je mettrai le lien dans la newsletter. Nothing, vous savez, la société de. Comment il s'appelle ? C'est pas CarPay. Je ne me souviens plus. Bref, Nothing a annoncé un partenariat avec une société qui s'appelle Sunbird, qui, selon eux, permettait aux appareils Android d'envoyer des messages sur iMessage. Visiblement, ça fonctionnait avec des MacBook ou des Mac Mini qui étaient dans des fermes de Mac Mini, qui recevaient le message qu'ils renvoyaient. Il fallait mettre son identifiant Apple dans l'application Nothing Chats pour pouvoir l'utiliser. C'était hyper pas sécurisé. Au bout de 3 jours, ils ont complètement arrêté le truc, ils ont retiré l'app parce qu'ils se sont rendu compte que Sunbird, leur partenaire dont personne ne connaissait rien de la sécurité, envoyait toutes les infos en public, sans chiffrement, directement accessible. C'était une catastrophe, j'aurais pu prédire que ça soit une catastrophe. Ça aurait été un sujet bien plus long si on n'avait pas eu OpenAI. C'est rigolo et assez pathétique à la fois.
Heureusement, l'interopérabilité a un coût. Et il faut choisir, soit tu es dans un closed world et c'est safe, soit tu vas dans l'open et c'est une catastrophe.
iMessage et RCS, je pense que ça peut fonctionner de manière assez...
Oui, non, mais quand tu as quelqu'un qui hack comme ça...
Ah oui, bah oui, ça c'est sûr.
J'arrive pas à parler anglais ce matin. Français.
Un système.
Quelque chose qui est censé être une bonne idée. Et ben en fait, non, c'est parce que... le font comme des porcs, et voilà quoi.
Et tu le sentais venir à 4 km, en plus Apple ne laisserait pas faire si c'était sérieux, si c'était fait sérieusement, et là c'était pas fait sérieusement, et Sunbird on savait rien sur le... Bref. Un autre truc, je vous dis, Apple adore Android, mais il n'y a pas que le RCS qu'ils offrent à Android, enfin qu'ils offrent pour accueillir Android dans le monde moderne, entre parenthèses, encore une fois, Android, Google l'a implémenté depuis longtemps, et bref. Mais il y a un autre truc, c'est QI, le protocole de chargement par induction, il y a une nouvelle version qui s'appelle Qi 2 qui est équivalent au MagSafe. C'est exactement comme le MagSafe, vous savez, avec l'accroche aimantée. Ben aujourd'hui, Apple a contribué au standard Qi en donnant les spécifications du MagSafe et donc Qi 2 va fonctionner avec tous les accessoires MagSafe. Ça sera complètement interopérable. Alors, ils garderont peut-être le nom MagSafe pour les trucs Apple. Mais on peut imaginer qu'il y a un échange de brevets, un truc comme ça, genre Apple donne un truc, ils reçoivent un autre truc de la part de Qi. Mais en tout cas, les téléphones Android qui utiliseront le standard Qi 2 pourront se connecter comme les MagSafe. Et c'est super pratique, MagSafe, c'est vraiment un truc qui fonctionne super bien. Vous collez votre téléphone au chargeur et ça s'aimante et ça tient tout seul. C'est vraiment cool et je suis content que ça arrive sur Android également. Dernier sujet, gros sujet d'aujourd'hui. Google, Twitter. Il y a quelques jours de ça, une petite semaine, il y a une étude qui a été publiée par Media Matters for America, qui est une organisation, une association qui surveille les médias, qui a montré que sur Twitter, les publicités de différents annonceurs pouvaient, dans certains cas, être affichées à côté de messages à contenu nazi, néo-nazi, et c'était des publicités d'Apple, de Warner Brothers, de Discovery, de Paramount, de Disney, etc., etc. Donc des gros annonceurs qui restent chez X, chez Twitter. Et la manière dont ils l'ont fait, c'est qu'ils ont créé des comptes, ils sont allés suivre des gens qui avaient des propos, vraiment, et quand je dis des propos de nazi, de néo-nazi, on est littéralement dans le « Hitler avait raison », quand il y a des gens qui pensent qu'être éveillé, éveillé intellectuellement, c'est être zen, mais non, c'est quand on suit les enseignements des SS, enfin ce genre de trucs, vraiment. Et donc, les pubs étaient affichées. Alors évidemment, ils ont rafraîchi plein de fois jusqu'à ce que des pubs soient affichées. Comme dans leur flux, il y a ça. Ben, les pubs étaient affichées à côté de ça. Évidemment, ça n'a pas plu ni à Apple, ni à Disney, ni à personne d'autre. Et donc, ils ont annoncé mettre en pause, donc quitter leur campagne sur Twitter. Twitter qui est en grande difficulté financière parce que les annonceurs sont partis suite au changement qu'a opéré Elon Musk. Et du coup, c'est un petit peu un autre séisme pour cette société qui risque de perdre, soyons sérieux, sa seule vraie source de revenus. Elon Musk lui-même est allé a annoncé qu'ils allaient faire un procès à MediaMatters parce qu'ils avaient représenté la chose d'une manière qui n'était pas juste, genre ce qui n'était pas la justesse de la situation, parce qu'ils avaient manipulé l'algorithme pour afficher ses pubs à côté des contenus néo-nazis. Mais dans la même justification, il fait un truc qui est hallucinant, c'est qu'il dit « Twitter est une plateforme qui protège la liberté de parole et donc nous voulons que toutes les paroles puissent s'exprimer. » Donc, au fond, ce qu'il dit, nous voulons que ces contenus nazis, néo-nazis, puissent apparaître sur notre plateforme. Donc, en gros, il dit, bah oui, c'est comme ça. Et donc, nous, on n'a rien à faire de... Enfin, on veut faire un procès à MediaMatters parce qu'on veut que tout le monde puisse s'exprimer, y compris les néo-nazis. En gros, il dit, oui, bah oui, ils ont raison, on a du contenu néo-nazi. Et tout ça, la défense... qu'a essayé de mettre la CEO vaillamment en disant « Non, mais nous faisons beaucoup d'efforts pour modérer les contenus inacceptables, machin », est en plus réduit à néant parce que le vrai problème dans tout ça, tu pourrais dire « essayer de te défendre ». Sauf que le vrai problème, c'est que Elon Musk retweet, commente, justifie des contenus de ce type depuis des semaines, depuis des mois, mais encore plus depuis des semaines, où... il dit des choses du genre « Ah oui, t'as complètement raison » en répondant à des néo-nazis qui mettent des messages de néo-nazis, même pas genre des trucs qui peuvent prêter à confusion, des trucs antisémites, enfin, incroyable. Et donc, évidemment, quand ton CEO, quand ton président, quand ton propriétaire, c'est pas ton CEO, pardon, c'est Linda Iaccarino, la CEO maintenant, mais quand le propriétaire et le CTO continuent à lui-même exprimer des opinions nazies, néo-nazies, évidemment, tu peux plus rien faire à ce moment. Et donc, le vrai problème, il est là. Il pourrait même, de manière un petit peu artificielle, dire nous essayons de modérer ces contenus. Et lui, c'est ce qu'il dit. Mais le problème, c'est que lui, derrière, après avoir dit nous essayons de modérer les contenus, il va retweeter ou en tout cas répondre à des contenus nazis. Donc ça ne tient pas du tout. Bon, plein de sociétés qui se barrent. Est-ce qu'elles vont rester? Est-ce qu'elles vont véritablement interrompre leur campagne de manière durable? Moi, je pense que chez Apple, en tout cas, il y avait une sorte de crainte que Elon Musk envoie une campagne de dénigrement envers Apple. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont restés. Vous vous souvenez, il y avait eu un moment où ils ont hésité un petit peu. Elon Musk était allé voir Tim Cook, etc. Ils ont même autorisé Twitter à changer de nom en X, alors que normalement, dans leur App Store, il fallait avoir au moins deux lettres dans le nom. Et généralement, ils ne dérogent pas aux règles chez Apple. Mais je pense qu'ils avaient un petit peu peur d'Elon Musk. Et là, c'est une excuse pour se barrer. Je ne sais pas. Bon, c'est un mouvement assez classique dans ce genre d'affaires. Quand une société qui affiche des contenus fait des trucs qui ne sont pas acceptables, les annonceurs se barrent, ça se retrouve à tous les coups. Là, c'était un petit peu... on le voyait venir, quoi. C'était pas si surprenant que ça, finalement, surtout vu ce qui est devenu le contenu sur Twitter ces derniers temps.
Ouais, enfin, ça va de pire en pire, et tu te demandes à quel moment les annonceurs vont dire ça vaut plus le coup, quoi. Ça vaut plus le coup. Parce qu'en fait, le problème, c'est que non seulement tu as le problème d'exposition de leur pub à côté de contenu qu'ils veulent pas, avec lequel ils veulent pas être associés. Moi, je sais que depuis qu'ils ont fait tous ces changements à l'algorithme, Moi, je me retrouve avec des conneries que je ne suis absolument pas, qui des horreurs donc de la droite extrême, machin, etc. dans mon feed. Tu te demandes comment ça arrive. Et en gros, c'est un Elon Musk, c'est pas un jusqu'au boutiste du free speech. C'est en gros, c'est le mon speech est free speech. C'est je décide qu'est-ce qui est free speech. Et si jamais je suis d'accord avec un tel ou pas d'accord avec un tel. Et donc c'est ça le problème des boîtes, c'est ils veulent pas avoir la colère d'Elon Musk contre eux si jamais ils font un move comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont hésité à sortir jusqu'au moment où ils ont dit mais c'est pas possible, on peut plus faire quoi, on peut plus sur X. Et tu te demandes ce que la CEO qui doit ramasser la merde derrière lui va faire et combien de temps. Enfin, je comprends pas qu'elle soit encore là quoi. Elle a pas besoin de ça. Déjà, je comprends pas qu'elle ait pris le job et je comprends pas pourquoi elle est encore là quoi.
C'est assez.
Elle passe pas. Dans 3 mois, elle est plus là quoi.
C'est possible. D'ailleurs, il semblerait que les contacts dans la pub. Elle vient de la pub. Chez NBC, je crois qu'elle était. Les contacts dans la pub lui disent, mais t'es en train de risquer ta réputation, là. C'est juste pas possible. Moi, si j'étais toi, je me barrerais. Mais bon, ouais. on va voir si elle le fait.
Elle a même mis son fils en charge de la partie politique, donc les pubs politiques. Et elle va essayer d'aller récupérer 100 millions des candidats républicains. Et donc, tu vas continuer à avoir des horreurs parce que maintenant, ils vont essayer de faire du fric avec.
Donc, au-delà de la frustration du contenu sur Twitter, il faut bien comprendre que là, il y a un tournant pour la santé financière de la société, qui finalement est importante parce que c'est par là que ça passe. Et d'une certaine manière, les annonceurs expriment l'inacceptabilité de la société par cette décision, l'inacceptabilité de ce que fait Elon Musk. Donc, c'est la voix de la société au sens large des pays, des citoyens, qui s'exprime par ce biais qui est un petit peu, convoluted, mais qui met la pression sur Twitter aussi. Alors, on va voir après, Elon Musk, il a Twitter à 100%, donc il fait ce qu'il veut, même s'il y a les banques derrière, bref. Je veux quand même mentionner un truc.
Il a quoi, 120, c'est quoi sa net worth? C'est des centaines de milliards. Ouais. Il s'en fout. In fine, s'il décide qu'il va continuer à s'amuser avec Twitter, et même si ça lui coûte 1 ou 2 milliards par an, il ne va même pas s'en rendre compte. Il ne va même pas s'en rendre compte.
Il pourrait, oui. Bon, après, il y a les hébergeurs, tu vois, toute l'infrastructure. Je ne sais pas s'ils ont tous les serveurs, s'ils ont... Et si ça va très, très loin, peut-être que ça peut faire comme un parleur ou comme un machin. Tu vois, à un moment, les CDN, tout ça, disent « on veut plus rien avoir à faire avec vous ». Les organismes de paiement qu'il essaye de développer lui aussi, il y a peut-être des trucs qui peuvent se passer. Mais oui, clairement, lui, il peut continuer à le faire vivre longtemps. Même si ça ne devient rien du tout et qu'il n'y a plus sur Twitter que les X millions de followers qui le suivent, lui.
Ce qui est franchement dommage, parce que quand tu te rends compte, en fait, de l'importance de Twitter dans ce qui s'est passé ce week-end, où en fait, tu avais en temps réel des tonnes de commentaires, de communications, de machin. En fait, cette crise s'est passée sur Twitter. Ça s'est passé aussi rapidement et tout le monde a contribué et tout le monde était là. Donc, ça montre qu'on a besoin de Twitter. On a juste besoin de Twitter dans les mains de quelqu'un d'autre.
Je mentionne quand même, certains pensent que je veux, j'en parlerai dans un petit Q&A que je vais faire demain. On m'a déjà posé la question à propos d'un autre personnage problématique. Je veux quand même mentionner que SpaceX a réussi le décollage de Starship. Starship, c'est la plus grande fusée du monde. Ils ont réussi le décollage de Starship. Je ne le dis pas pour réhabiliter Elon Musk, je le dis parce que la justesse mène à la justice et il faut être juste. SpaceX fonctionne très bien, j'en parlerai un petit peu plus dans le Q&A qui sera publié en hors-série ce week-end, j'espère, si tout va bien, dans vos flux de podcasts classiques, mais ce qu'ils sont en train de faire chez SpaceX est assez incroyable. Alors on pourrait dire, mais c'est pas Elon Musk, c'est machin, ok, très bien, mais pendant ce temps, y a aussi... La raison pour laquelle je le mentionne, c'est que c'est pas parce que quelqu'un fait des trucs ignobles qu'il ne peut rien réussir, et penser ça, à mon avis, est contre-productif et voire dangereux. Et j'en parlerai un petit peu plus tard. Et SpaceX, en l'occurrence, ah oui, ils font des trucs incroyables. Jeff, je crois que tu dois nous quitter.
Yep.
Donc, un grand merci d'avoir été avec moi pour, pour parler de tout ça et pour tes analyses et tes insights d'insider. Et on se retrouve dans un mois pour l'épisode de décembre.
Avec grand plaisir.
Tu es toujours sur Twitter entre-temps
Ouais, Jeff, ouais.
Blue Sky, est-ce que tu es sur Blue Sky?
J'ai dû déjà te poser. J'ai essayé les deux, trois autres. Mais j'ai réservé Jeff Clavier sur les autres plateformes. Mais en gros, okay. Je reste sur Twitter parce que c'est là où...
Toute la commu francophone est sur Blue Sky maintenant. Hein. Donc, si tu veux nous rejoindre... Ouais. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Le mouvement de la communauté francophone est invraisemblable sur Blue Sky. Donc, tu peux venir si tu veux. Mais je vais essayer de te trouver Jeff Clavier, je ne te trouve pas sur Blue Sky.
Bah, je vais peut-être pas créer un compte sur Blue Sky parce que quand Elon a fait son takeover, j'ai créé plein de comptes partout. Mais
je t'envoie une invite sur Blue Sky tout de suite. Tu peux le faire pour qu'on ne te prenne pas ton nom.
Ça marche. Ok, allez, grosse bise à tout le monde. Ciao,
Jeff. Salut. Et voilà donc pour cette petite partie avec Jeff. On va finir cet épisode avec le reste de l'actualité que je vais vous narrer tout de suite. Ça va être un petit peu plus court, encore une fois. Quelques petites infos donc. D'abord, Google a annoncé qu'ils allaient complètement éliminer les cookies third party, les cookies tiers dans Chrome en 2024. Alors, ils ont un autre système pour faire du ciblage, mais les cookies tiers vont disparaître en 2024. Ils commencent les tests début 2024 et a priori, vers la fin de l'année, ça sera complètement supprimé. C'est un bon exemple de la puissance du pouvoir de l'administration, des gouvernements et du fait que, c'est un thème récurrent depuis quelques années, je vous en parle souvent, du fait qu'on n'est pas démuni face aux géants de la tech. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Il y a quand même un système qui est complexe pour qu'il fonctionne et qu'il nous amène autant de bénéfices que possible, même s'il ne fonctionne pas toujours très bien, mais on n'est pas démunis. Et il y a quelques années, on se demandait si on n'était pas démunis. Là, ça montre bien que ça n'est pas le cas. Google lance aussi Notes. Très intéressant, c'est comme les notes sur Twitter, c'est un système qui permet, qui est expérimental à ce stade, mais qui permet d'avoir des notes sur des résultats de recherche. C'est intéressant parce que si c'est bien modéré, ça peut aider les gens à avoir plus d'informations, à avoir un retour facile sur les résultats de recherche. C'est des trucs qui vont donner, on peut mettre des emojis, des petits commentaires, ça ressemble un petit peu à des stories, mais du coup, ça peut permettre d'avoir un autre feedback sur des résultats de recherche, je trouve ça pas mal. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que Bing également fait un truc avec les résultats de recherche, c'est qu'ils implémentent des titres de pages dans les résultats de recherche qui sont générés par IA. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette idée débile ? Un titre généré par IA au lieu du titre de l'article ? Mais c'est catastrophique. Et peut-être, mais ça peut être également utile. Parce qu'il peut y avoir des cas où soit les titres sont un petit peu buzzy, soit... l'IA, alors ça sera labellisé comme titre dans le résultat de recherche comme généré par IA, mais ça peut faire aussi un meilleur résumé du sujet, que ça soit un article de presse ou simplement un résultat de recherche classique quand on cherche une personne ou ce genre de choses. Et c'est assez intéressant parce que c'est un truc que je connais avec un outil de veille que j'utilisais énormément qui s'appelle TechMime. Et TechMime génère TechMime réunit des news sur toute la tech en réécrivant les titres dans leur liste de liens pour que ça soit plus compréhensible. Alors là, c'est fait par des humains, donc évidemment, c'est très différent. Mais cette idée de réécrire le titre pour qu'il soit plus descriptif peut être utile. Et là, c'est fait par IA chez Bing. C'est une idée qui me paraît intéressante. Un sujet qui aurait été l'un des sujets principaux de l'émission, s'il n'y avait pas eu tous ces autres sujets, c'est Microsoft Ignite, la conférence pour développeurs de Microsoft. Je mettrai un lien dans la newsletter vers un résumé de 8 minutes de toute la conférence, mais en gros, vous imaginez bien de ce qui a été dit dans cette conférence, c'est IA, 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 partout. Mais il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. D'abord, Microsoft commence à designer, à concevoir ses propres processeurs. Il y a des processeurs pour générer des modèles et des processeurs pour exécuter les modèles. C'est assez surprenant que Microsoft s'y mette aussi. Enfin, surprenant, finalement, pas tant que ça, puisque l'importance de l'IA n'est plus à démontrer. Il y a aussi des modèles de langage plus légers qui ont des résultats de plus en plus probants. Il y a des Copilot Studio qui permet de créer des IA customisées, un petit peu à la manière de GPT. Des avatars générés par IA avec des espaces virtuels qui sont modifiés par IA de manière assez surprenante. C'est-à-dire que on fait des espaces virtuels pour des espaces de meeting en IA qu'on peut décrire et on peut dire « Alors là, si, s'il te plaît, cet espace avec des sièges, rends-le plus clair, mets des chaises différentes qui soient rouges et il va pouvoir designer cet espace en 3D, donc créer un espace 3D à partir d'une description texte, ce qui est assez incroyable et qui a l'air de fonctionner, on testera par nous-mêmes. Donc, Microsoft va à fond sur l'IA, évidemment, Microsoft va également aller à fond sur tout ce qui est IA dans Windows, ça on le savait déjà. Mais cette conférence était assez intéressante. Si vous voulez, alors vous pouvez rechercher Microsoft Ignite, mais je vous mettrai un lien vers la conférence résumée en 8 minutes dans la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com et dans les notes de l'émission. Entre parenthèses, je précise un truc, il y avait un vieux lien qui restait encore pour la newsletter qui vous abonnait à une ancienne newsletter que j'ai corrigé et j'ai transféré toutes les personnes. Donc, si vous faites partie des quelques dizaines de personnes qui s'étaient abonnées ces derniers mois et qui n'avaient pas reçu de newsletter, eh ben, bonne nouvelle, vous la recevrez désormais. Tout va bien. On continue avec la fin du journal de l'IA. Le dictionnaire de Cambridge, le Cambridge Dictionary, a choisi son terme de l'année. Et c'est un terme qui est bien trouvé, c'est « halluciner ». C'est un terme qui est bien trouvé parce qu'évidemment qu'ils allaient faire quelque chose en rapport avec l'IA, mais une hallucination de l'IA, c'est quand l'IA commence à soit dessiner, à créer, à dire des choses qui deviennent incohérentes. Et c'est malin d'avoir choisi ce terme-là spécifiquement parce que ça résume les capacités, les promesses et les problèmes de l'IA. Je trouve ça assez malin. Hallucinating, bien sûr, en anglais, puisque c'est un terme anglais. À propos de termes intéressants, je mentionne également QTI, je crois que ça se prononce comme ça. C'est le laboratoire d'IA de, notamment, Xavier Niel, qui a été ouvert à Paris. Il investit beaucoup d'argent là-dedans. Et il y a d'autres, Rodolphe Saadé, notamment, et Eric Schmidt, qui investissent également. Ça se compte en centaines de millions. L'idée est de développer un centre pour l'IA à Paris, en France, et je trouve ça évidemment positif, hein, pour qu'on ne se fasse pas dépasser. Il y a déjà beaucoup de savoir-faire, beaucoup de connaissances, beaucoup de capacités dans l'IA chez nous, en France, et le fait d'avoir une volonté industrielle là-dedans pourra peut-être aider à avoir préserver, ne serait-ce que préserver notre souveraineté dans ce domaine. Ce qui est important également, c'est l'une des choses que dit Xavier Niel dans ce domaine. Je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je mettrai un dernier truc dans la newsletter, un article très intéressant sur Ars Technica, qui fait toujours des articles longs et intéressants, qui fait une réflexion sur l'IA et le copyright. Et le rapport entre l'IA et le copyright, la manière dont elle utilise, peut-être de manière pas tout à fait juste, des images copyrightées, c'est encore un débat qu'on n'a pas résolu, mais surtout la manière dont elle va pouvoir peut-être redonner vie au domaine public. Par différents biais, tout est dans l'article, je vous laisserai aller le voir, ça sera parmi les quelques peu d'articles de la liste de lecture dans laquelle je ne mets désormais que des trucs vraiment intéressants, en plus des trois news habituelles de la semaine. Donc tout ça sera dans la newsletter. Voilà pour moi, n'oubliez pas que je suis NotePatrick un petit peu partout, vous pouvez vous joindre à nous dans le Discord, où on a toujours des conversations hyper intéressantes et animées et qui m'apportent souvent des points de vue auxquels je n'avais pas forcément pensé, qui nourrit désormais mes réflexions, en parallèle de la veille, bien sûr, que je fais toutes les semaines. Donc, le lien vers le Discord est dans les notes de l'émission. On a encore plein de codes sur le Discord qui ne sont pas pris pour Blue Sky, enfin qui sont pris, qui mettent un petit peu de temps. Donc, si vous en voulez, il y en a sur le Discord dans le sujet dédié. Bien sûr, on est en live généralement sur Twitch et YouTube le mardi midi et le jeudi midi pour le rendez-vous jeu. Et les liens sont dans les notes de l'émission. Et Patreon, patreon.com/rdvtech, si vous appréciez le travail que je fais. Je serai extrêmement reconnaissant de votre soutien et j'espère que vous, ça vous rendra fier de soutenir quelqu'un qui fait du travail comme le mien. Patreon.com/rdvtech, merci à tous et à toutes. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.